Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Grand Bien vous fasse en direct ou en podcast. Et ce matin, on s'intéresse aux douleurs chroniques, ces sensations très pénibles qui persistent 3 mois ou plus, qu'il s'agisse de douleurs dorsales, articulaires, musculaires, abdominales, des conséquences d'une intervention chirurgicale, d'une sclérose en plaques, de graves brûlures, des conséquences d'un cancer ou encore d'un accident vasculaire cérébral. Près d'un cinquième de la population française est touchée par ces douleurs chroniques, sans compter les répercussions dans la vie des proches. Comment expliquer la douleur chronique? Est-elle une fatalité? Comment faire pour mieux la supporter, voire l'éradiquer? Pourquoi faut-il parfois s'inspirer des fakirs pour moins souffrir? Comment recouvrer une bonne qualité de vie en complément des médicaments? Élément de réponse avec deux grands spécialistes, le professeur Didier Boissira, praticien hospitalier et chercheur à l'Inserm, et avec le docteur Patrick Gignest, anesthésiste, responsable d'une équipe médicale dédiée à la douleur au CHU de Montpellier, et avec la complicité évidemment d'Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et notre page Facebook. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour docteur Patrick Gignès.
Bonjour Ali.
Anesthésiste, responsable du département douleurs psychosomatiques et maladies fonctionnelles au CHU de Montpellier. Bonjour professeur Didier Boissira. Vous êtes neurologue et vous dirigez une unité INSERM, psychopathologie et pharmacologie clinique de la douleur. Et vous venez de publier l'antidouleur au Cherche Midi. Première question, qu'est-ce qu'une douleur chronique, Didier Boissira?
Comme vous l'avez dit, une douleur chronique, c'est une douleur qui dure très longtemps, qui dure au moins 3 mois, c'est la définition officielle qui en est donnée. Et cette douleur n'a plus grand-chose à voir avec la douleur que nous connaissons tous, que tout un chacun connaît. La douleur lorsqu'on met une main sur une plaque chaude, la rage de dents ou le mal de gorge sont des douleurs qui sont des douleurs dites aiguës, qui ont duré un certain temps, qui ont une cause qui est bien identifiée. Et en général, les douleurs disparaissent avec la cause, ou lorsque la cause est cicatrisée ou guérie.
Quels sont les critères pour l'évaluer, docteur Patrick Gignès?
C'est la plainte du patient. Son handicap suite à cet état qui va le transformer complètement, lui et sa famille. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est qu'elle est invendable, cette notion de maladie douloureuse chronique. Invendable. Pour le patient, il dit toujours que ça doit être rapporté à un organe, à une migraine. Mais en fait, quand on rentre dans la douleur chronique, ce n'est plus lié à un seul problème de l'udo ou de la tête. C'est quelque chose d'autre qui va prendre toute une nouvelle l'univers autour du patient.
Professeur Didier Boissira, une douleur normale signale un symptôme?
Oui, la douleur normale est un symptôme. Elle nous permet d'identifier des maladies, des lésions, donc elle est utile, elle protège l'organisme, la douleur normale. La douleur chronique a perdu totalement cette fonction.
Devient même une maladie.
C'est elle-même qui est la maladie et elle est liée en réalité à un mauvais fonctionnement du système de détection de la douleur lui-même. Donc c'est une maladie de la douleur, en quelque sorte.
Les douleurs chroniques sont très larges, très diverses, Patrick Gignès?
Oui, elles sont diverses. Toutes les spécialités, en fait, doivent avoir un regard qui se dit, est-ce que ce patient que je suis en train de traiter pour une colite ou pour une fracture qui a cicatrisé ou pour une prothèse de genou qui a été bien posée, ce patient-là ne va-t-il pas développer? Je dois être à l'écoute de un éventuel échec de ma thérapeutique qui a été parfaite. La prothèse est parfaite et le patient continue à se plaindre. Et là, ça, c'est un dépistage qui doit être fait par tous les spécialistes et toutes les infirmières. C'est ça qui va être la nouveauté. Parce que la douleur chronique, on ne peut pas l'attaquer seule. Et il faut avoir un regard avant qu'elle devienne chronique.
Didier Boussira.
Oui, tout à fait. Il faut essayer de la prévenir quand c'est possible et en tous les cas la détecter le plus tôt possible. Et comme l'a dit Patrick Gignès, la meilleure façon de la détecter, c'est d'écouter les patients. Le langage de la douleur est extrêmement important et c'est à l'écoute des patients qu'on peut identifier ces douleurs, les repérer le plus tôt possible pour mettre en œuvre le plus rapidement possible les thérapeutiques.
Alors 20% de la population française déclare souffrir au quotidien de douleurs chroniques et c'est en majorité des femmes.
Un peu plus de femmes que d'hommes.
Oui. Pourquoi?
C'est un constat. Alors, il y a beaucoup d'explications qui ont été proposées pour rendre compte de cet état de fait, qui n'est pas spécifique à la France. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Il y a peut-être des différences dans le système de détection de la douleur, qui n'est pas tout à fait le même entre les femmes et les hommes, mais il y a aussi sûrement et peut-être principalement des différences dans leur rapport à la douleur, la façon d'exprimer la douleur et de s'en plaindre ou de ne pas s'en plaindre.
Patrick Gignès.
Je vais dire quelque chose qu'il faut prendre avec les deux niveaux de la phrase que je vais prononcer. Les femmes en test douleur sont un peu plus sensibles que les hommes. Mais, je rajoute de suite, elles sont pas douillettes. Elles ont une capacité sur ces douleurs qui sont plus fortes que celles des hommes, perçues comme telles. Elles ont une capacité d'activité, de travail supérieure aux hommes pour le même niveau de douleur. Vous voyez déjà qu'on voit l'environnement et la sociologie, la façon d'intégrer dans la société cet état qui est vraiment 20% de la population, j'allais dire presque mondiale.
C'est énorme.
C'est énorme.
Alors, est-ce qu'il existe des profils types de patients atteints par les douleurs chroniques, Patrick Gignès ?
Eh bien non, les tests psychiatriques, tout le monde a en fait une capacité. Alors c'est une espèce de collaboration entre son histoire de vie personnelle et des éléments concomitants. Si vous opérez quelqu'un d'un genou à l'orée de sa retraite, peut-être cette décompensation du mode de vie va faire que le système de gestion de cette prothèse du genou va pas être la bonne. 6 mois avant, 2 ans après, ça n'aurait pas déclenché peut-être une maladie chronique douloureuse. Et là, cette phase intermédiaire, le cerveau est dans une disposition qui va mal interpréter les débuts de symptômes douloureux et mal interpréter, ces symptômes vont se pérenniser et devenir chronique.
Didier Boissira.
Oui, effectivement, il n'y a pas de profil de douloureux chronique. N'importe qui peut devenir douloureux chronique, finalement. Et il y a un ensemble de facteurs, des facteurs liés à la lésion ou à la maladie qui peut causer cette douleur initialement, bien sûr, mais aussi des facteurs liés à l'environnement, au contexte dans lequel elle survient, et des facteurs psychologiques, bien entendu, qui interviennent aussi.
Pendant trop longtemps, ces douleurs chroniques n'ont pas été suffisamment reconnues par la médecine, Didier Boissira.
Oui, tout à fait. La médecine de la douleur est une médecine qui est très récente, hein, qui a moins d'une cinquantaine d'années, et donc pendant... Tout ce qui s'est passé avant, la douleur chronique n'est pas reconnue en tant que telle, en tous les cas, elle n'est pas prise en charge en tant que telle par des spécialistes formés pour ce faire.
Patrick Gignès, le traitement de la douleur reste encore trop souvent secondaire à l'hôpital, en dépit des multiples plans antidouleurs ces dernières décennies ?
Il y a eu quand même des progrès énormes. Pour la douleur aiguë et pour la douleur périopératoire, c'est-à-dire bien traitée, une douleur autour d'une opération laisse peu... pas d'habitude beaucoup de traces. Mais ce qui est nouveau, c'est que nos 30 glorieuses ont cru qu'on allait pouvoir tout guérir avec des médicaments simples. Et là, la douleur chronique nous impose un regard humaniste. Et il faut un regard d'équipe. Les infirmières, si on parle du libéral, c'est ça qui va être la prise en charge. Il n'y a plus de médecins généralistes. Donc il y a un abandon des gens dans la non-explication de ce qui se passe. Et la souffrance de la société est telle qu'il faudra un accompagnement pour éviter l'évolution de la douleur chronique. Ça, c'est une révolution, à la fois sociologique.
C'est ce qu'on a compris, effectivement. C'est ce qui a changé complètement la façon dont on prenait en charge ces patients. C'est qu'on a compris qu'il fallait une prise en charge dite pluridisciplinaire. Donc que plusieurs médecins de différentes spécialités travaillent ensemble, mais pas seulement des médecins, des infirmières, des psychologues et d'autres professionnels de santé se réunissent tous en équipe pour prendre en charge ces douleurs qui demandent une prise en charge globale.
L'idée de votre livre, Didier Boissira, c'est de nous aider à nous servir de la puissance de notre cerveau pour alléger nos souffrances.
Oui, tout à fait. On ne le sait pas toujours, mais notre cerveau est capable de contrôler la douleur. Il produit des substances proches de la morphine, les fameuses endorphines que tout le monde connaît ou on en a entendu parler. Eh bien, le cerveau est capable de contrôler beaucoup de douleurs et beaucoup des traitements que nous utilisons dans les centres de la douleur, mais pas seulement, visent justement à utiliser nos ressources internes pour prendre en charge ces douleurs.
C'est vrai que le patient était d'abord demandeur. Il dit « trouvez-moi la solution, trouvez-moi la cause et trouvez-moi le médicament ». Et là, il y a une inversion de la charge de la preuve. Le patient sera thérapeutique lui-même s'il découvre de nouvelles façons d'analyser son état, son problème, avec l'aide justement d'une équipe autour. Alors, la pluridisciplinarité doit commencer dans la tête des infirmières ou des chirurgiens qui opèrent. Elle ne doit pas être que dans les centres de la douleur. Ils ne seront jamais assez nombreux pour prendre en charge les 20% de la population. Ça, c'est une révolution, ça.
On consomme trop d'antidouleurs en France, Jean Boissira ?
On consomme beaucoup d'antidouleurs, comme dans la plupart des pays. Ce sont les produits qui sont le plus consommés, hein, enfin, en réalité, en France comme ailleurs. Ça peut se discuter, ça dépend. Si on les consomme, c'est qu'en général, ils sont nécessaires.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
On n'a quand même pas la même crise des opiacés qu'on voit aux États-Unis avec un système de prescription sécurisé et différent.
Heureusement, oui. Nous sommes très très loin de connaître la crise des États-Unis actuelle, hein, avec les morts liées aux prescriptions de produits dérivés de la morphine, pas seulement de la morphine, des tas de produits qui en sont dérivés et qui sont liés effectivement à la façon dont ces produits sont prescrits là-bas. Le plus souvent, ce sont des prescriptions qui ne sont pas adaptées. Heureusement, en France, nous sommes très très loin de ça.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Alors, vous subissez des douleurs chroniques depuis une trentaine d'années. Qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 30 ans ?
Oui, c'est ça, 1986.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oh, je souffrais depuis des années de lumbago, terrible, invalidant. J'ai même été 10 ans avant dans un lombrista plâtré pendant 3 mois. Enfin bon, finalement est survenue, alors là, une sciatique effrayante, un lumbago terrible, une sciatique épouvantable, impossible de me bouger, c'était l'horreur. 3 mois sur un lit avec sonde urinaire parce qu'on pouvait pas me toucher ni quoi que ce soit. Puis quand on a pu enfin me mobiliser un petit peu, c'était le début vraiment des scanners et on m'a amené à Montpellier dans un service de radiologie pour essayer de comprendre. Après 3 mois, un rendez-vous, il a fallu 3 mois hein, pour avoir un rendez-vous à l'époque pour un scanner. Et donc là, le résultat a été la découverte d'une hernie discale assez mal placée, pas très voyante. Et bien sûr, ça a été un éclairage parce que j'ai passé pendant des années et des années des radios où on ne voyait rien et je n'avais rien. Voilà.
Et cette hernie discale a été mal opérée ?
Alors non, la hernie discale a été bien opérée, mais... Comme disait le docteur Gignès tout à l'heure, quand la douleur réapparaît, il fallait s'inquiéter. Et à l'époque, il y a une trentaine d'années, le traitement de la douleur n'était pas encore très pris en compte. Les chirurgiens, les médecins n'étaient pas encore très formés, très alertés par les reprises de douleur. Et on m'a laissé traîner pendant des mois et des mois avec une reprise de douleur après une dizaine de jours hein, d'accalmie où c'était le paradis. J'avais été envoyée dans un hôpital pour une rééducation, c'est-à-dire pour apprendre à se baisser, pour apprendre à se tenir correctement pour ne pas ressusciter de l'imbago. Et puis,
Les conséquences de ces douleurs chroniques, Michel ?
Alors, la conséquence, ça a été de nouveau une immobilisation hein, dans ce service hospitalier de rééducation, parce que les douleurs revenaient, étaient tellement épouvantables que je me retrouvais quasiment dans la position d'avant l'opération.
Et d'un point de vue psychologique ?
Ah ben on est complètement perdu, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Pourtant je suis quelqu'un d'assez rationnel au point de vue disposition d'esprit, mais là je n'ai pas compris. J'ai dit, ben je me disais, mais enfin que se passe-t-il ? On m'a opéré, on a retiré la cause de. Ça a été formidable pendant 10-12 jours, et puis voilà que ça recommence. Qu'est-ce qui se passe ?
Docteur Gignès, c'est l'une de vos patientes expertes à Montpellier.
C'est ça, qui explique tout son parcours qui est long. Elle a été opérée après une dizaine de fois, avec des systèmes d'implantation, des réopérations, des conséquences énormes. Et donc, une phase où, bien sûr, on arrive à une dépression qui est quasiment, je peux le dire, madame, on est difficile et suicidaire quasiment. Hein. Donc, tous les systèmes de gestion sont dépassés. On ne comprend pas, on n'est pas écouté, on n'a pas la capacité psychologique de résister, on n'a pas le traitement possible, notre corps est différent. Et donc, c'est un parcours. Donc, quand on reçoit ces patients, il faut avoir une compassion de base.
Comment vous avez allégé les souffrances de Michel ?
J'avoue que c'est l'échange d'abord. C'est le face-à-face pour comprendre et croire. Parce qu'il y a une incompréhension, comme je viens de l'expliquer. Et ça, c'est le plus difficile dans une position de basse pour le médecin, qui toujours dit « je vais vous trouver une solution ». Il faut une position d'attente et repère les détails de la souffrance de l'autre. C'est le détail. Votre émission s'appelle « Grand bien vous fasse ». Et c'est le grand, c'est-à-dire bon, l'évaluation de tout ce qui a été les conséquences. Le bien, c'est le côté empathique. L'émotion, l'échange, qu'elle retrouve quelqu'un en face, c'est pas qu'un technicien. Et bien vous fasse, c'est pour une allitération, c'est le face-à-face, deux échanges d'émotions. Et ça, c'est ce que les infirmières font peut-être mieux que les médecins.
Michel, quel message avez-vous envie de donner, de délivrer à tous ceux qui souffrent de façon chronique ?
Je pense qu'une des issues, c'est d'avoir d'abord en face de soi un médecin ou une équipe qui soit attentive, qui vous croit, puis de leur faire confiance. Puis ensuite d'essayer de comprendre que la douleur chronique n'est pas une fin en soi. Moi je suis arrivée grâce à l'attention du centre antidouleur de Montpellier. grâce à une psychothérapie qui a duré 12 ans. J'ai eu la chance de rencontrer un psychiatre extraordinaire qui est à... Et ces deux équipes, si vous voulez, ont réussi à me faire comprendre qu'il allait falloir que je vive avec ça.
Merci beaucoup Michel de nous avoir d'avoir témoigné ce matin. Comme Michel, vous pouvez poser vos questions sur la douleur chronique au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur notre page Facebook. Alexia Rivière, Claire Destacan, Alexia Lacour, Antoine Vandeville et notre journaliste Théo Denmat m'ont aidé à préparer cette émission et c'est réalisé par Stéphane Texier.
Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
C'est la ouate.
Pas bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance. De savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère.
C'est la ouate.
Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
C'est la ouate.
Caroline Loeb, c'est la ouate à 10h25.
Grand bien vous fasse.
Mais qu'est-ce qu'il a? Il est malade?
Vous savez, moi je suis médecin à la radio. Alors il y a combien? 15 ans que j'ai pas vu de malade.
Sur France Inter.
Écoute, quand tu es véritablement malade, quand tu as par exemple une crise de colique néphrétique ou une crise de colique hépatique, je te prends des trucs qui sont véritablement des choses, des souffrances de damnés. Eh bien quand tu as ça, il n'y a plus de littérature, tu te demandes à quoi ça sert. Alors... Un docteur te dira, ça sert à vous alerter, ça sert à faire ci, ça sert à faire ça, mais
c'est
d'accord,
très insuffisant,
mais
ça, oui.
Ça sert, mais ouais. D'accord, mais je suis alerté, mon cher ami, pourquoi je continue à souffrir? C'est fini l'alerte, c'est fini, que ça m'a donné un coup, ça suffit, tandis que ça dure des semaines et des semaines, et si je ne me soigne pas ou si je n'ai pas de remède, je meurs. Par conséquent, cette douleur physique a une raison. Tu commences, c'est là où vraiment tu comprends. La solitude humaine, il y a rien, c'est toi qui souffres, c'est pas celui qui t'aime. Mais c'est surtout la douleur physique, mon beau, qui est pour moi le grave problème et sur lequel je voudrais avoir des réponses. Je voudrais avoir une réponse.
Jean Giono en 1965, et on va essayer de vous délivrer quelques réponses sur les douleurs chroniques avec le professeur Didier Boissira et le docteur Patrick Gignès. À quoi sert la douleur, demande Jean Giono, le philosophe ruénogien décédé l'an dernier, qui a écrit « Mes mille et une nuits », la maladie comme drame et comme comédie, nous dit que la souffrance n'apprend strictement rien, qu'elle n'a pas de vertu positive, de qualité rédemptrice, pour reprendre ses mots. Pour lui, ce dolorisme dans nos sociétés s'exprime dans des phrases comme « ça fait grandir la douleur », ça, ce qui ne tue pas rend plus fort. Patrick Gignès.
Et oui, mais Jean Giono dit la réponse. En fait, peut-être sa douleur, derrière ce qu'il a décrit comme une douleur aiguë, il y a l'angoisse d'une douleur chronique. Et cette angoisse-là a été peut-être le moteur de toute sa créativité romanesque. Proust le dit à chaque page, ça. Donc, il est incontournable l'expérience de la douleur. Et même quand on est adulte et sans douleur, on a la réminiscence des moments de l'enfance où s'est construit un corps sur des événements d'agression du monde extérieur. Donc, il y a toujours des éléments de stress douloureux qui sont en mémoire. Comme dit Léon Blois, la douleur passe, souffrir passe, avoir souffert ne passe jamais. Souffrir passe, avoir souffert ne passe jamais. Et ça, c'est le moteur aussi de la vie. C'est pas qu'elle est indispensable, mais elle est un stimulus.
Didier Boissira.
Comme l'a dit Jean Giono, c'est vrai que la douleur est un signal d'alarme. Mais à quoi bon ce signal d'alarme qui sonne en permanence? Donc il faut la traiter. Et une douleur aiguë, une fois qu'elle a joué son rôle de signal d'alarme, de toute façon, il faut la prendre en charge. Donc évidemment, il faut traiter toutes les douleurs, et comme on l'a dit déjà, le plus rapidement possible, pour éviter le passage à la douleur chronique qui, elle, n'a plus du tout de fonction utile et qui devient une souffrance pure.
Alors Didier Boissira, quels sont les circuits de la douleur? Comment on est une douleur?
Eh bien, on connaît assez bien le circuit de la douleur. On connaît, il existe des récepteurs de la douleur un peu partout sur notre corps qui nous permettent de détecter justement toutes ces stimulations un petit peu nocives qui pourraient être dangereuses pour le corps. Donc cette douleur-là, encore une fois, permet de nous protéger d'une certaine façon de l'environnement, des agressions de l'environnement. On sait aussi par où ça passe au niveau de la moelle épinière, du cerveau. On sait qu'il existe non pas un centre de la douleur dans le cerveau, mais que de très nombreuses régions du cerveau participent à la douleur, ce qui explique justement que la douleur a plusieurs dimensions. Une dimension sensorielle qui nous permet de dire ça pique, ça brûle, on peut même coter une douleur, la noter entre 0 et 10 par exemple, mais il y a toute une dimension affective, psychologique de la douleur, et qui fait intervenir d'autres régions du cerveau qui elles aussi ont été assez bien identifiées. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette douleur physiologique, cette douleur normale, peut devenir complètement anormale et pathologique.
Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau?
Pour différentes raisons. Là, ça peut être, initialement, ça peut être une cause à la périphérie, disons, une lésion comme de l'arthrose ou comme une lésion neurologique, un petit nerf qui a été abîmé, par exemple, au cours d'une intervention. Ça peut suffire qu'il y a des dysfonctionnements qui se créent à la périphérie pour déjà envoyer des messages de douleur. Mais ce qui est encore beaucoup plus important pour créer la douleur chronique, ce sont les modifications du cerveau lui-même. Dans le cerveau lui-même, les systèmes dont on parlait tout à l'heure, ces systèmes qui nous permettent de contrôler, de mieux gérer, de modeler, de moduler la douleur, sont eux-mêmes atteints, ils sont dysfonctionnels. Au lieu de diminuer la douleur, ils vont contribuer à l'augmenter, à l'amplifier. Donc la douleur chronique est véritablement une maladie neurologique, on peut dire, une maladie du cerveau.
En termes médicaux, c'est quoi une douleur nociceptive? Il y a plusieurs types de douleurs chroniques. Il y a les douleurs nociceptives, les douleurs dysfonctionnelles et les neuropathiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
il est
les nociceptives, par exemple?
Alors, les douleurs nociceptives, ce sont justement ces douleurs qui sont liées à une surstimulation, à une suractivation du système de détection de la douleur. Et cette surstimulation dure tellement longtemps que la douleur s'autonomise, elle devient chronique. Donc la douleur nociceptive la plus connue, la plus classique, c'est l'arthrose. La douleur d'arthrose est une douleur, par définition, une douleur nociceptive. Mais il est important de reconnaître les autres douleurs également. Par exemple, les douleurs neuropathiques, qui elles sont liées à des lésions ou des maladies qui vont toucher le système nerveux, en particulier le système de la douleur lui-même. Ça peut être le cas d'une simple fracture qui va léser un nerf, mais ça peut être le cas de maladies neurologiques un peu plus sérieuses, un peu plus graves, comme la sclérose en plaques, ou encore un accident vasculaire cérébral, mais ça peut être aussi le simple diabète. Le diabète peut entraîner des douleurs neuropathiques. Et puis la troisième cause de douleur, la troisième grande classe de douleurs, ce qu'on appelle les douleurs dysfonctionnelles, ce sont des douleurs dans lesquelles il n'y a ni lésion de type arthrose ou inflammation, ni lésion de type neurologique, et pourtant les patients ont mal. Et la principal, le principal exemple, je dirais, l'exemple le plus connu de ces douleurs dysfonctionnelles, c'est la fibromyalgie. La fibromyalgie qui est une maladie, justement, des systèmes de détection de la douleur. Ce sont les systèmes de modulation de la douleur qui sont eux-mêmes altérés, qui ne fonctionnent plus normalement, et au lieu de diminuer la douleur, ils l'augmentent. Et donc, on voit bien que on a trois types de douleurs différentes, trois grandes classes de douleurs, et on ne va pas utiliser forcément les mêmes traitements pour ces différents types de douleurs.
Et quelles sont les douleurs chroniques les plus fréquentes, Patrick Giniès, dans votre centre antidouleur à Montpellier ?
Ça a évolué. Avant, c'était beaucoup les lombagos, les lombalgies, opérées, multi-opérées. Maintenant, les chirurgiens ont compris qu'il fallait moins agresser les corps, agresser la chair, pour avoir moins de douleurs nociceptives, comme vient de dire Didier Boissera. Alors maintenant, il y a plus de douleurs, justement, neuropathiques. Elles explosent. La douleur neuropathique, c'est quand des petites lésions existent autour d'une opération, d'une prothèse, d'une hernie inguinale opérée. Ça picote, ça brûle, ça décharge. Les gens n'ont pas eu d'autres douleurs plus fortes parce qu'ils ont été bien opérés. Mais malheureusement, ils ne comprennent pas ces picotements qui sont là alors que le traitement est parfait et que la cicatrisation est parfaite. Et ça, ça peut angoisser et ça va donner peut-être une chronicité. Puis après, les maux de tête chroniques et...
Didier Boissera.
Oui, il est important donc pour reconnaître ces douleurs, encore une fois, d'écouter les patients. Comme ça vient d'être dit, effectivement, la simple description de la douleur oriente déjà le médecin vers sa cause. Par exemple, les douleurs neuropathiques sont décrites de façon très spécifique. Les termes de brûlure, de décharge électrique, de picotement, de fourmillement sont très souvent utilisés par les patients. Et on a d'ailleurs créé des questionnaires, des outils qui permettent de dépister ces douleurs en s'appuyant uniquement sur l'écoute, sur le langage de la douleur.
Le langage de la douleur est très important, donc, avant d'amorcer un traitement.
Il est extrêmement important. On écoute le patient et la simple description, l'écoute des mots utilisés par le patient pour décrire sa douleur nous permet déjà de décrypter d'une certaine façon cette douleur.
Bonjour Claire, bienvenue dans l'émission.
Oui, bonjour France Inter.
Bonjour Claire. Quelle est votre question ?
Eh bien, moi, ma question était mais vous y avez partiellement répondu, mais comment faire la part entre une douleur chronique et une pathologie qui est non détectée. C'est-à-dire que on vous fait des analyses, on ne détecte rien, pourtant, depuis 2005, j'ai les tendons qui gonfle, ça bouge, hein, ça peut être les tendons d'Achille, les tendons derrière les genoux, les tendons des poignets, et je vis comme ça, et donc c'était suite à une hépatite très très importante qui a cédé avec de la cortisone pendant un an. Et au bout d'un an, quand on m'a arrêté la cortisone, j'ai eu les tendons d'Achille totalement bloqués. Alors après, ça se dérouille le matin, ça marche très bien. Mais donc maintenant, je vis comme ça. Là, par exemple, je tenais mon téléphone avec mon bras droit et le tendon du poignet droit, il commence à me faire mal parce que je tenais le téléphone. Et voilà, je vis. Alors après, il y a des fois... Donc les médecins n'ont vraiment rien trouvé. Je prends du Nifugel. Alors suite à l'hépatite, je ne prends pas d'antidouleur. Hein, je tiens à vous le préciser.
Docteur Giniès.
Oui. Rien qu'en vous écoutant, c'est un très bon exemple de ce que devraient avoir comme regard les équipes médicales. Vous décrivez des éléments presque inflammatoires, comme s'il y avait une grosse maladie rhumatologique inflammatoire. Donc je dirais, moi, qu'il y a peut-être 30% de maladies inflammatoires que vous avez à cause de la génétique. Deuxièmement, vous avez décrit que l'hépatite avait laissé peut-être des traces dans votre système nerveux. Et ça, c'est les capteurs dont vient de parler Didier Boissera qui sont peut-être devenus sensibles suite à l'hépatite. Vous voyez, deuxième facteur, 30% de maladies qu'on appellerait neuropathiques. Et troisièmement, vous exprimez aussi votre incompréhension puisqu'il n'y a pas de réponse. Donc des fois, c'est colère et angoisse. Et ça peut parasiter les systèmes fonctionnels de contrôle automatique de la douleur. Donc vous avez trois diagnostics.
Oui, il est très important de comprendre que dans nos centres spécialisés, dans la prise en charge de la douleur, on ne retrouve aucune cause précise pour la douleur chez au moins 30% des patients. Donc, comme le décrivait...
Ça peut être désespérant.
Ça peut être désespérant pour les patients, bien entendu, et également pour les médecins qui aiment bien avoir une approche rationnelle, trouver une explication à tous les symptômes. Or, on sait très bien qu'en matière de douleur, ce n'est pas le cas. Au moins 30% des patients n'ont pas de lésion ou de maladie qui explique clairement les symptômes. Donc, On passe beaucoup de temps à expliquer aux patients que ça ne veut pas dire que leur douleur n'existe pas. La douleur est bien présente, la douleur peut exister indépendamment d'une lésion ou d'une maladie. Le cerveau peut créer la douleur indépendamment d'une lésion ou d'une maladie.
Merci beaucoup Claire de nous avoir appelé ce matin. Alors pour traiter la douleur, il existe des médicaments qui ont une action locale et d'autres qui ont une action plus large. Didier Boissira, d'abord les traitements locaux, avantages et inconvénients.
Alors, il y a beaucoup de traitements de la douleur. Effectivement, on peut commencer par des traitements locaux. Ça peut être des anti-inflammatoires, ça peut être des produits comme des anesthésiques locaux qu'on va administrer donc autour de la région douloureuse. Et il y a maintenant d'autres formes de traitements locaux comme des patchs contenant différentes substances. Certaines contiennent des substances dérivées du piment, notamment. Ils sont très utiles pour les douleurs neuropathiques. Donc, l'intérêt de ces traitements locaux, c'est que les effets secondaires sont bien moins importants puisqu'on va délivrer le produit local là où la douleur siège, et il y a peu de produits qui va diffuser dans le sang. Donc on peut espérer, et c'est le cas en général, qu'il y a beaucoup moins d'effets indésirables.
Et puis il y a des médicaments administrés par voie orale et qui bloquent les messages douloureux.
Alors voilà, la deuxième étape, si les traitements locaux ne sont pas suffisants ou n'ont pas été efficaces, eh bien on peut essayer des traitements par voie orale, donc les antidouleurs que tout un chacun connaît. Ça peut être du paracétamol, ça peut être des anti-inflammatoires, ça peut être des produits un peu plus forts comme la morphine et ses dérivés. Et là, le principal mécanisme d'action, par exemple de la morphine, c'est de bloquer la transmission des messages de douleur au niveau du cerveau.
Et pourquoi on continue à avoir mal même après avoir ingérer de la morphine pour traiter une douleur?
Parce que la morphine a une durée d'action limitée. Elle ne traite pas la cause de la douleur. Elle ne traite que le symptôme. Elle diminue la transmission pendant un temps donné, la transmission des messages de douleur pendant un temps donné. Et donc, dès que son action s'estompe, eh bien, la douleur revient. Donc, il faut reprendre le médicament.
Alors, pour vous, Didier Boissira, il est essentiel de briser le cercle vicieux de la douleur. Ça veut dire quoi? Prenons par exemple le cas des lombalgies.
Les lombalgies, c'est un excellent exemple de cercle vicieux qui peut se créer très rapidement. On a mal au dos, la douleur persiste, on va moins bouger, on va moins se déplacer et on va donc rester couché par exemple. Eh bien ça va contribuer à diminuer la force musculaire, ça va augmenter les mauvaises postures, etc. et va contribuer à augmenter la douleur. La douleur augmente, on va encore moins bouger. Bref, on rentre très facilement dans des cercles vicieux et qui sont créés notamment par la peur du mouvement, ce qu'on appelle la peur du mouvement. Le fait, on sait que le mouvement peut déclencher une douleur, donc on appréhende tout mouvement, donc on bouge moins, et en bougeant moins, on augmente la douleur. Donc, un des éléments majeurs de la prise en charge de ces patients, c'est de les reconditionner à l'effort, c'est de leur faire réapprendre l'activité physique, car c'est un des éléments majeurs de la prise en charge.
Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine.
Oui, on le voit, il y a d'ailleurs des programmes de réentraînement à l'effort dans les hôpitaux maintenant. Il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que, par exemple, le yoga avait été aussi efficace que la kinésithérapie dans la prise en charge de la lombalgie chronique, ou encore pour la fibromyalgie, on a montré que des exercices de musculation, de résistance ou l'aquagym avaient aussi une efficacité.
Tout à fait.
Donc, parfois, il faut sortir aussi du monde médical pour prendre en charge une douleur chronique et essayer par soi-même de se remettre à bouger. Et c'est extrêmement important, ça évite de se focaliser sur sa douleur.
Alors, souvent, au début, il faut
être aidé.
Il faut être aidé pour justement essayer de vaincre cette peur du mouvement qui est vraiment la cause de beaucoup de problèmes. Et donc, comme vous le disiez très justement, on va réentraîner progressivement les patients à l'effort. Après leur avoir bien montré que cette peur du mouvement n'était pas forcément justifiée.
On le voit avec la campagne de l'assurance maladie. Exactement. Qui essaie de remettre les gens en mouvement, parce qu'avant on a quand même prescrivait le repos.
Le mouvement est un des meilleurs antidouleurs, clairement.
Mais vous voyez comment, Ali, on va peut-être créer des générations entières de gens avec des lombalgies, puisque les enfants maintenant sont postés, ne bougent plus devant des écrans. Il y a une addiction, il y a une perte de la relation. On va donc sociologiquement, bizarrement, par les générations qui suivent, on a des modifications de la plainte et des types de maladies. Ça, c'est le côté sociologique. Et notre société est oppressante, des fois pressante. Et donc le système de contrôle, parfois, est un peu parasité par cette angoisse sociale. Donc vous voyez, ça ouvre le champ de beaucoup de choses. Et peut-être, il faut réfléchir, infirmière encore une fois, c'est ça qui est scandaleux. Il n'y aura plus de généralistes, il n'y a plus de grand-mères, on n'a plus des générations de gens qui sont coachés dans leur croissance. Et donc on aura une autre forme peut-être de souffrance qui va s'exprimer sur ce corps qui n'avait pas été construit comme avant.
Didier Boissira.
Oui, voilà, on revient ici sur la notion de prise en charge globale, c'est-à-dire qu'il va toujours falloir combiner chez un patient plusieurs approches. Les médicaments sont extrêmement rarement suffisants, donc on va toujours les associer à d'autres types de prise en charge. Ça peut être un certain nombre de... La prise en charge par le réentraînement à l'effort, par exemple, ça fait partie du traitement, comme on vient de le dire. Il y a d'autres types d'approches un peu plus psychocorporelles qui sont très importantes.
Vous montrez dans votre ouvrage Antidouleur que notre cerveau dispose de ressources antidouleurs et qu'il est même capable, ce cerveau, de contrôler la douleur de façon aussi puissante que la morphine.
Tout à fait. Le cerveau produit de la morphine, en quelque sorte, et on peut contrôler un certain nombre de douleurs grâce à notre cerveau. Encore faut-il savoir utiliser et réapprendre à utiliser ces ressources internes, et qui c'est un des objets de la prise en charge. On peut le faire par des techniques psychothérapeutiques, hein, l'hypnose, des choses comme ça reposent sur ce type de méthode, mais il y a aussi des techniques de neuromodulation qui visent à activer plus directement ces systèmes de contrôle de la douleur par des stimulations électriques ou magnétiques, par exemple.
Allez, nous attendons vos questions et réactions au 01 45 24 7000.
Oh, comme ça cognait, Phébus à bloc, on s'abritait dans la forêt. Mille sentiers nous parcouraient, mille odyssées à notre porte, les cohortes d'ennui filaient, on le savait, elle reviendrait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Oh, ça nous voyait comme anguille, dans les ruisseaux qui serpentaient, mains des garçons, cheveux des filles. Et on se cherchait dans les bois. Certains se trouveraient, d'autres pas, mais sans moquer. Qui oserait, même aujourd'hui, qui oserait? Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis, mais depuis, oh, un jour plus rien ne meurt jamais, toute l'eau stagne dans le puits, on revient seul dans la forêt. Se mettre à l'abri, même si le soleil a pâli, voilé par tous les jours d'après, on revient seul dans la forêt. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis.
Dominica, toute l'attitude.
Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt?
Grand bien vous fasse.
Aïe! Ah, on dirait que ça me fait mal. Ah.
Sur France Inter.
10h46, comment soigner les douleurs chroniques? C'est notre thème ce matin avec le professeur Didier Boissira, neurologue et chercheur à l'INSERM, mais avec le docteur Patrick Gignès, médecin anesthésiste et chef de service au CHU de Montpellier.
Vous êtes accro?
Si les calmants dirigeaient ma vie, je serais d'accord avec vous, mais c'est ma jambe qui me dicte mon emploi du temps heure par heure.
Vous êtes dans le déni.
Exact. Je n'ai jamais eu d'infarctus à la jambe, je n'ai pas de muscles morts ni de lésions neurologiques. Aucune douleur.
juste un léger chatouillis.
Il vous faut votre dose. Vous êtes un drogué. Vous en êtes à quoi, 80 mg par jour?
Oh non, c'est beaucoup trop. La modération, il n'y a que ça de vrai. Sauf si on a mal.
C'est le double de ce que vous preniez quand je vous ai embauché.
Parce que vous êtes deux fois plus enquiquinante.
Je ne peux pas toujours être là pour vous protéger. Vous savez, les patients en parlent, les médecins aussi.
De quoi, des kilos que vous avez pris dans les fesses? J'en parle pas, moi. Ou alors en bien.
On peut devenir accro, dépendant aux médicaments antidouleurs, comme le Dr House, Jean Boissira. C'est le sketch de la matinée, Didier Boissira. Est-ce que l'addiction à ces médicaments augmente en France?
Alors, on a parlé tout à l'heure du problème des problèmes d'addiction liés à la morphine, à ses dérivés. C'est bien entendu un problème important. Très important aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, pas seulement aux États-Unis, quelques pays d'Europe qui sont aussi concernés par cette crise des opioïdes, comme on dit, c'est-à-dire lié au fait que beaucoup de patients deviennent addicts aux antidouleurs et certains en meurent malheureusement. Donc oui, bien sûr, on peut devenir addict aux antidouleurs et un des objets de la prise en charge, c'est bien entendu d'éviter ce type de problème. Comme on l'a dit précédemment également, heureusement en France, les règles de prescription de ces produits sont quand même beaucoup plus encadrées que dans d'autres pays, ce qui explique sans doute que nous sommes très très loin de connaître les difficultés de ces pays.
Alors Didier Boissira, par quel mystérieux mécanisme les fakirs supportent-ils la douleur?
Alors les fakirs...
Et sont-ils d'ailleurs insensibles à la douleur?
Eh bien non, les fakirs ne sont pas du tout insensibles à la douleur. Il y a eu plusieurs études qui ont analysé cela et qui ont bien montré que les fakirs ressentaient la douleur comme tout le monde. Simplement, ils étaient capables de la maîtriser, de la contrôler grâce à un entraînement de très longue durée, alors avec de nombreuses écoles qui utilisent différentes méthodes pour s'entraîner. Mais néanmoins, c'est une capacité que nous avons presque tous en nous. On pourrait presque devenir des fakirs en s'entraînant énormément de longues années comme ils le font.
Exemple.
Quel intérêt de s'allonger sur une planche à clous, je ne sais pas, mais on pourrait le faire en théorie.
Exemple pour ceux qui souffrent de douleurs chroniques, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors voilà, ça permet, cette image du fakir nous permet de comprendre, nous permet d'expliquer même à certains patients que nous avons en nous des ressources. Le cerveau est capable de contrôler d'une certaine façon la douleur.
Et comment les utiliser, ces ressources?
Eh bien, ils existent de différentes façons. Et les façons les plus simples, ce sont le langage, l'échange. Beaucoup de traitements basés sur la psychothérapie mettent en jeu ces systèmes de modulation. On peut aussi essayer de les activer plus directement, avec des outils, avec des stimulations électriques, magnétiques, etc. Et certains médicaments aussi, on utilise beaucoup d'antidépresseurs pour traiter la douleur.
Pourquoi ?
Parce que les antidépresseurs agissent sur la douleur indépendamment de leur action sur la dépression. Ça a été bien démontré. Ils agissent justement sur ces systèmes de contrôle et de modulation de la douleur. Donc vous voyez qu'il existe plusieurs moyens d'agir sur ces systèmes, en tout cas de les réactiver, car on pense que dans beaucoup de cas, ils sont dysfonctionnels, ils ne fonctionnent pas bien, c'est ce qui explique d'ailleurs beaucoup de douleurs chroniques.
Docteur Gignès, de façon générale, pourquoi est-il important de mieux gérer ses émotions pour court-circuiter la douleur, ou du moins pour l'apaiser?
Oui, c'est vrai que d'abord, quand on a une douleur, c'est l'émotion principale, c'est une angoisse, une solitude. Donc toutes des émotions qui vont parasiter les systèmes normaux antidouleurs qu'on a dans le cerveau et qui sécrètent les systèmes morphiniques, endocrinologiques variés qui contrôlent ce système-là. Et donc des éléments négatifs vont psychologiquement influer sur la douleur. Pour la contrôler, un esprit positif dans un corps sain, comme disaient les philosophes à l'époque, l'esprit positif, on peut pas le retrouver tout seul. Des fois, il faut le groupe. Quand les alcooliques se sont mis à traiter l'alcool, ils se sont mis en groupe, souvent. Donc il faut pas être seul, il faut essayer de partager. Là aussi, les infirmières seront peut-être les premières façons d'écouter cette douleur-là. Réactiver, c'est aussi, quand on a une douleur aiguë qui dure et qui se répète, le cercle vicieux, c'est de plus penser à rien, de dire j'ai la douleur, je peux rien faire, j'ai la douleur, je peux rien faire. Alors que il faut penser à autre chose. Peut-être avoir 20 secondes, ça s'appelle de l'auto-hypnose. On apprend ça aux patients. Et ils ont une capacité de inverser ce cercle vicieux psychocorporel. Des petites techniques d'auto-hypnose rapidement apprises déjà font beaucoup de succès pour qu'après le mouvement revienne et qu'il n'y ait pas d'angoisse vis-à-vis de cette impasse.
Didier Boissiera, beaucoup de techniques antidouleurs sont des techniques de détournement de l'attention, c'est ça ?
Elles utilisent le détournement de l'attention, mais ce n'est pas que ça. C'est pas que du détournement de l'attention, mais oui, le détournement de l'attention joue un rôle important dans beaucoup de techniques, que ce soit la relaxation, que ce soit l'hypnose, que ce soit la méditation. La méditation est de plus en plus utilisée pour traiter certaines douleurs chroniques. Eh bien, dans tous ces cas-là, on apprend aux patients à mieux gérer, à mieux utiliser leur attention.
Alors, en quoi, par exemple, les thérapies comportementales et cognitives peuvent nous aider à surmonter la douleur ? Ça permet de supprimer certains conditionnements.
Exactement.
Prenez dans votre ouvrage l'exemple d'une arthrose au genou droit. Donnez-nous un exemple. En quoi ces thérapies peuvent nous aider ?
Eh bien, voilà, à vous faire comprendre justement dans les cercles vicieux dans lesquels vous avez pu rentrer. C'est un des principaux objectifs de ces techniques de thérapie cognitive et comportementale. Prenons l'exemple de l'arthrose. Vous avez mal dans le genou droit. Cette douleur augmente avec le mouvement. Lorsque vous pliez le genou, et bien entendu, vous allez de moins en moins utiliser votre genou, ou en tous les cas, vous appuyez de moins en moins sur ce genou. Ce qui va faire que pour compenser, vous allez appuyez davantage sur le genou gauche, et au bout d'un certain temps, vous pouvez avoir mal du côté gauche parce que vous allez augmenter la douleur, l'arthrose et la douleur donc du côté gauche. Donc, un des objectifs de ces traitements, c'est justement de vous faire prendre conscience de ces conditionnements et de montrer que, par exemple, dans le cas de l'arthrose, la douleur ne survient pas à chaque mouvement. Et donc, en réalité, c'est l'appréhension de la douleur qui fait qu'on utilise moins son genou droit pour qu'on compense avec le genou gauche. Or, la douleur n'allait pas forcément arriver après chaque mouvement. Donc, il faut apprendre à se déconditionner, en quelque sorte, de la douleur.
Docteur Gignès.
Et puis, on veut ne pas avoir de douleur en vieillissant. On veut toujours faire autant de semi-marathon, ou de golf, ou de ski. Et là, il y a une incompréhension, parce que l'âge fait qu'on n'a pas les mêmes objectifs possibles. Et si, par exemple, notre cerveau n'accepte pas ce petit désagrément, du handicap qui est perdu, qui est augmenté avec l'âge, on va avoir une colère. Cette colère va parasiter encore les systèmes de contrôle. Et le cercle vicieux se fait négativement. Et on peut moins faire, peut-être, que si on a une phase d'acceptation modérée, mais d'acceptation de l'état.
Dans votre centre antidouleur au CHU de Montpellier, vous utilisez les médecines complémentaires.
Oui, ça s'appelait au début, notre centre, il y a 35 ans, algologie, sophrologie. Donc, dès le début, on a fait toujours cet aspect-là. Là, depuis 15 ans, on fait ce qu'on appelle le musicaire, c'est-à-dire un système de musicothérapie 20 minutes, où le patient recomprend les éléments émotionnels concomitants à la douleur. Il se fait des exercices, où il les fait chez lui, et il y a physiologiquement une diminution de la douleur.
C'est validé scientifiquement ? Est-ce que c'est bien vu dans le milieu hospitalier, ce type de médecine complémentaire ?
Les médecines complémentaires sont utilisées presque dans près de 70% des patients en traitement de la douleur. Donc ce sont des techniques qui sont très largement utilisées, principalement l'hypnose, l'acupuncture, mais ça peut être la musicothérapie, la méditation, d'autres techniques. Et elles sont validées d'une certaine façon. Oui, beaucoup d'entre elles le sont. L'hypnose est validée, l'acupuncture également. Il y a de nombreuses études qui montrent que ces techniques sont efficaces. Mais ce que montrent ces études aussi, il est important de le souligner, c'est qu'aucune de ces techniques n'est magique.
Exactement.
Elles ne permettent pas de soulager toutes les douleurs et 100% des douleurs. Donc elles sont utiles, on les utilise, comme je le disais, dans presque tous les centres, mais elles doivent être utilisées à bon escient, elles ont leur place, elles sont complémentaires, elles sont utilisées en même temps que d'autres techniques, car la clé de la prise en charge de la douleur chronique, c'est la combinaison, c'est l'association de différentes approches.
Comment fonctionne par exemple l'hypnose thérapeutique pour traiter les douleurs chroniques, Patrick Gignès ?
L'hypnose thérapeutique pour les douleurs chroniques. Peut-être, j'allais dire d'abord, c'est que le patient, il fait de l'hypnose lui-même, quand il est rentré dans la douleur chronique, de l'hypnose négative.
Ah bon ?
Et oui, parce qu'il se dit, je ne peux plus travailler, ma famille va s'exploser, j'aurai plus d'argent, je n'ai pas d'avenir, qu'est-ce que je vais faire ? Vous voyez, tout ce qu'on conditionne qui va décupler la douleur. Il faut inverser ce processus. Et bizarrement, quand les patients découvrent ces techniques-là et qu'ils les appliquent un tout petit peu, ça s'appelle de l'éducation thérapeutique. Il faut faire passer au patient ce message qu'il a des capacités. Avec l'aide de quelques professionnels et de quelques séances, ces capacités sont intégrées au patient. Et ça, c'est magique parce que c'est lui qui va.
Très important de souligner que là, le patient est acteur de sa prise en charge dans presque tous les cas. Et donc l'auto-hypnose est un bon exemple. On peut faire des séances d'hypnose dans nos centres, on le fait, pour apprendre au patient à utiliser cette technique, mais il va falloir qu'il les utilise tout seul ensuite, qu'il les utilise chez lui, sinon ça ne sert à rien. Donc le patient est vraiment, véritablement acteur de sa prise en charge.
Et tout ça, c'est en plus des médicaments.
Ah oui, bien sûr.
Alors par exemple, les techniques de méditation de pleine conscience, elles sont vraiment utiles pour alléger les douleurs chroniques?
Oui, oui. Alors ça, pour le coup, ça a été validé également scientifiquement. Il y a de nombreuses études qui ont montré l'intérêt de différents programmes de méditation de pleine conscience, donc très utilisés aux États-Unis depuis plus de 30 ans, plus récemment dans notre pays. Mais néanmoins, là encore, ce sont pas des techniques magiques. Ça demande d'entrer dans un programme, de suivre tout un programme, initialement avec une équipe, avec un groupe le plus souvent, et ensuite d'appliquer par soi-même ces techniques. Donc ça demande, ce sont des programmes qui durent en moyenne 12 semaines, et donc ça demande un effort, une participation active des patients.
Patrick Gignès.
Oui, alors ça, on vient sur le problème économique. Alors, on n'aura pas plus d'argent jamais, les centres antidouleurs sont des pots de chagrin, ils diminuent tous les ans, et donc on fait les formations. Il faut que les infirmières... Nous, on a cet exemple d'une vingtaine d'infirmières dans les Pyrénées-Orientales, donc à 150 km de Montpellier, qui ont fait ces formations, et qui prennent en charge près de chez elles, avec l'aide d'un généraliste et deux ou trois capacités formées des infirmières, elles font ce travail que les centres de la douleur, des CHU, ne pourront pas absorber. Le nombre de douleurs chroniques, vous l'avez vu, est tellement important. Donc cette notion-là est majeure. Comment les infirmières vont changer de registre pour appliquer ces techniques qui vont permettre de diminuer les coûts de santé. Parce que ces patients-là, quand ils n'ont pas cette réponse que vient d'expliquer Didier Ouassira, il y a une demande d'examens complémentaires, de scanners, de radios, et ça coûte très très cher. Aucune efficacité du système de santé appliqué à la douleur chronique, aucune efficacité. Donc c'est un changement sociologique, ça c'est une révolution qui n'est pas encore comprise par les tutelles, mais qu'il faudra et qui économisera.
Et pour avoir un rendez-vous dans un centre antidouleur, il faut parfois attendre 6 mois, 1 an.
C'est pour ça.
Donc il faut mieux faire quelque chose avec des professionnels de santé en ville.
Localement, bien sûr. Formés.
Didier Boissira, vous rappelez dans votre ouvrage 10 principes à connaître pour agir sur la douleur chronique. L'essentiel, le plus important.
De comprendre qu'on peut agir sur la douleur chronique, c'est sans aucun doute le plus important, et que nous avons en nous les ressources pour agir sur la douleur chronique.
Merci beaucoup, docteur Patrick Gignès, d'être venu de Montpellier. Docteur professeur Didier Boissira, l'antidouleur est publié au Cherche Midi. Alors qu'il s'agisse de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'empathie, et ben demain on se demande si nos émotions sont intemporelles, en compagnie de l'historien Georges Vigarello et avec notre psychiatre Christophe André. Et puis vous pouvez réécouter l'émission que nous avions consacré à IKEA le 18 janvier dernier, à l'occasion de la mort de son fondateur Ingvar Kamprad. À la technique ce matin, Kevin Pelot et Philippe Duclos.